Frères et sœurs, les amis, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais m'arrêter sur la première lecture, d'une part pour être fidèle tant que je peux, à méditer au moins une fois par mois, sinon un peu plus, des textes de l'Ancien Testament. Lecture du premier livre des Rois, qui va nous parler dans l'extrait que nous avons ce dimanche, de deux grands prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, que sont Élie et Élisée. Alors, les livres des rois sont des livres historiques, mais pas historiques au sens où on l'entend aujourd'hui. Ils décrivent tout simplement des histoires parallèles de deux dynasties, celle du Nord et celle du Sud, divisés ou séparés en deux royaumes, royaume du Nord et royaume du Sud, après la mort de Salomon. Au Nord, le royaume va garder le nom d'Israël, et au Sud, le nom de Juda. Mais en réalité, ces livres ne sont pas des manuels d'histoire comme on pourrait l'écrire aujourd'hui, avec un souci éventuel d'objectivité. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de tirer la morale de l'histoire, car le but de ce livre, de ces livres des rois, est d'ordre d'abord théologique. La grande leçon qui est sous-jacente à tout cet ensemble est très simple, à savoir, seule la fidélité à l'alliance proposé par Dieu, peut assurer le bonheur du peuple. Et ces livres, le livre des rois, insistent beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que sur toute une grande période de la royauté, dans les deux royaumes d'Israël et de Juda, les auteurs n'ont fait que rapporter des infidélités du peuple, des rois, corrompus, etc., etc., mais aussi les malheurs incessants, les guerres, les rivalités, bon, et tout ce qu'on peut imaginer. On peut dire que ceci explique cela, parce que respecter les commandements de Dieu, c'est tout simplement semer la paix et l'ordre et la justice, et à l'inverse, évacuer Dieu de son horizon, c'est oublier sa loi et c'est rechercher le pouvoir, l'argent, mentir, voler, tout ce que vous voulez. Eh bien, dans cette période, les exemples foisonnent. Donc, les deux prophètes, pour en revenir à notre texte, Élie et Élisée, qui se succèdent au IXe siècle, se font donc tout simplement les champions de la fidélité à l'égard de Dieu et du Dieu unique, en consacrant leur vie et toutes leurs énergies à, bien, par leur exemple d'une part, et par leur prédication, à ramener le peuple au véritable vrai Dieu, et seul et unique Dieu. Et donc ce dimanche, nous lisons tout simplement le récit de la vocation d'Élisée. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Donc c'est très clair, l'histoire est très claire, l'intention du texte est tout simplement d'affirmer que c'est Dieu lui-même qui a choisi Élisée, et Élie ne fait que lui transmettre tout simplement l'appel du Seigneur. Alors il s'agit tout simplement de montrer que Élisée, par le choix de Dieu, est le digne successeur d'Élie, autrement dit, on pourrait dire aujourd'hui, son fils spirituel. Alors il y a des anecdotes ou des détails très simples qui nous montrent le respect de l'action de Dieu, si je puis dire. Le texte nous dit qu'Élisée était en train de labourer. Eh bien, c'est au sein même de l'activité quotidienne de la vie d'Élisée que l'appel de Dieu retentit. Oui, Dieu respecte notre vie, et s'il a un appel à faire, il ne va pas pour autant mettre notre vie quotidienne de côté. Il y a beaucoup de personnages bibliques qui sont recrutés dans les milieux et les métiers qui étaient les leurs. David et Amos gardaient les moutons, pour donner quelques exemples. Gédéon battait le blé, Samuel dormait en pleine nuit, Saul rentrait des champs derrière ses bœufs. Bref, même dans le Nouveau Testament, Matthieu était à son comptoir de douane et les premiers disciples étaient à la pêche. Voyez, Dieu respecte ce que nous sommes en train de faire. Et le texte d'aujourd'hui continue. Il avait labouré 12 arpents, il en était au 12e. C'est très beau, on voit la délicatesse de Dieu qui attend que la totalité de ce que Élisée était en train de faire dans son travail soit respectée, c'est-à-dire que sa tâche soit terminée et finie. Son ancienne mission, si je puis dire, est terminée et une nouvelle mission va commencer. Élie passa près de lui et lui jeta son manteau. Alors, c'est très beau parce que en jetant son manteau sur les épaules d'Élisée, Élie l'invite tout simplement à participer de manière intime à la mission du grand prophète. Alors à ce moment-là, nous voyons qu'Élisée quitte ses bœufs, etc. Mais il va désirer faire des adieux à sa famille. Et Élie lui répondra, « Va-t'en, retourne là-bas. » Je n'ai rien fait. Alors cette phrase peut éventuellement nous surprendre, voire nous choquer, ou y voir un geste d'exaspération ou d'humeur de la part du grand prophète. En fait, Élie n'a pas repris le manteau. Il a laissé tout simplement Élisée partir, dire au revoir à sa famille. Mais en n'enlevant pas le manteau qu'il venait de donner à Élisée, il montre bien que cette vocation va impliquer un choix radical, voire une rupture, pour se tourner résolument vers l'avenir et tout quitter. Alors le texte ne s'encombre pas de détails, il est très sobre. Quelques mots suffisent, des gestes qui parlent, et visiblement les deux interlocuteurs se sont tout à fait compris. C'est en toute et grande liberté qu'Élisée retourne faire ses adieux, et son geste est très significatif, il va tuer les bœufs de son attelage. Donc on voit là que la rupture commence, puisqu'il était agriculteur et l'attelage c'était l'instrument de son travail. Et il va faire un grand feu, tuer ses bœufs et faire un grand festin pour dire au revoir et adieu à sa famille. Et la mission à laquelle il est appelé exige donc cette radicalité ou cette rupture, mais sans violence, c'est ça qui est très beau. C'est-à-dire que Élie va respecter Élisée, qui porte le manteau en question dont nous parlions tout à l'heure, va respecter tout cela. Et on voit aussi la délicatesse symbolique qui est proposée en brûlant son attelage. On voit bien qu'il se coupe radicalement de ce qu'a été sa vie précédente d'agriculteur pour partir dans une autre vie, en prenant le temps, et Dieu le respecte, tout simplement, de faire ses adieux à sa famille. Alors, nous connaissons la suite de l'épisode, quand Élie, le grand prophète, va être enlevé au ciel par un char de feu, Élisée va ramasser le manteau d'Élie. Et il va, en quelque sorte, s'en habiller. Et là, nous ne pouvons pas ne pas voir le baptême. Le jour du baptême, nous avons reçu l'habit du Christ. Nous sommes habillés du Christ. Comme un jour, Élisée a été habillé par le manteau d'Élie. Et voilà pourquoi, au moment du Saint-Crème, on va rappeler que l'enfant ou la personne qui est baptisée s'inscrit dans cette grande lignée des prophètes. Nous te marquons du but sainte, afin que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. On trouve ça très beau. Hein, nous sommes, entre guillemets, sans l'orgueil de notre part, nous sommes participants, comme Élisée a participé à la vocation dans son travail de mission aux côtés d'Élie, nous sommes nous aussi dans cette dynamique. Alors, réjouissons-nous de pouvoir être habillés par le Christ lui-même et faire que cet habit soit pour chacun et chacune d'entre nous le témoignage vivant de notre mission prophétique. Amen.